Mais d'abord, alors Luc n'est pas là, il devrait être là demain. C'était l'occasion pour nous de réinviter Mia Homsy qui a participé à cette émission pendant un certain temps. Mia, bonjour.
Bonjour.
Content de te retrouver.
Ben oui, moi aussi.
Et là, alors ce matin dans la chronique avec Luc, avec Paul, je pense à Luc, je parlais de toute la question de la main-d'œuvre et de la pénurie de main-d'œuvre parce que en fin de semaine, Mia, des personnes proches de moi se sont rendues compte qu'un phénomène est en train de voir le jour, c'est-à-dire des employés d'entreprises, des grandes entreprises qui manquent de main-d'œuvre et donc qui vont faire du maraudage chez des petits commerçants. Ils vont se présenter, puis ils vont aller voir la personne qui travaille dans le magasin, mettons, puis ils vont lui dire « Comment tu gagnes, toi, ici? » OK? Non, mais dis-moi comment tu gagnes, parce que moi, je travaille pour telle bannière, puis on serait prêt à te donner une pièce de l'heure de plus, deux pièces de l'heure de plus si tu viens travailler pour nous. Puis si tu viens travailler pour nous, on va te donner des rabais sur les produits que tu vas acheter dans le supermarché ou dans la super surface. Et puis là, je me suis rappelé le papier que tu as écrit la semaine passée sur la question de la main-d'œuvre, justement. Fait que là, je me suis dit, tiens, belle occasion pour parler avec Mia de cet enjeu-là. Parce qu'honnêtement, quand c'est rendu que les gros commencent à faire les requins pour bouffer les employés des petits commerces, moi, je me dis, là, on commence à avoir un sérieux problème, Mia, là.
Bien, c'est sûr qu'on a un problème parce qu'en fait, ce que j'aurais beaucoup, beaucoup souhaité qu'on voit, puis ce que je prône, puis qu'on voit dans nos analyses, c'est qu'il faut que ce soit l'inverse qui se passe. Parce que les grandes compagnies, là, c'est elles, celles qui engagent plus d'employés, qui ont souvent plus de revenus, qui ont des services de RH, là, de ressources humaines plus élaborées, sont beaucoup plus en mesure de payer leurs employés. Ils ont des meilleures conditions de travail, des meilleurs avantages sociaux. Puis c'est ces entreprises-là qui doivent jouer un rôle de leader dans leur secteur, dans leurs industries. Il y a des secteurs où on le voit. Et on va avoir un problème pendant 10 ans. L'enjeu des pénuries de main-d'œuvre, là, tout le monde en parle maintenant, mais ça fait longtemps qu'on le voit venir.
Oui.
Puis on sait exactement combien de temps il va durer. Là, c'est facile de le voir parce que la démographie, c'est comme une des seules choses qui est prévisible. Puis les personnes, le bassin là, de 15 à 64 ans ou 20 à 64 ans, on le voit, il diminue. Puis ça arrête en 2031, puis après, ça repart à la hausse. Donc, dans 10 ans, il va y avoir 130 000 personnes de moins de 20 à 64 ans au Québec. Donc, on le sait que ça va durer. Puis si on commence avec des solutions comme ça en ce moment où on va marauder,
oui,
puis on s'entraide pas, c'est sûr qu'on passera pas au travers de façon très glorieuse.
Alors, ce que je trouve intéressant dans ta réflexion, c'est que oui, l'immigration fait partie de la solution, mais tu dis il n'y a pas juste l'immigration. Et là-dessus, je te rejoins. Je pense que tu as écouté la chronique que j'ai faite ce matin dans l'émission de Paul, où je disais ça prendrait une forme de pacte social, un pacte social entre le gouvernement, les milieux d'affaires, les milieux syndicaux, les milieux communautaires, où oui, il faudrait prévoir, je pense, des cibles, des seuils d'immigration, mettons, pour les 5 prochaines années, puis il faudrait voir le chiffre, trouver le bon chiffre. Mais ça peut pas être juste l'immigration. Il va falloir que nos entreprises qui sont en retard sur le plan, par exemple, de la machinerie, de l'équipement, qui sont en retard par rapport aux entreprises ontariennes, il va falloir que nos entrepreneurs soient meilleurs. Il va falloir qu'ils investissent davantage pour moderniser les usines. Puis je disais aussi dans cette chronique-là qu'il va falloir aussi penser à l'intégration de ces nouveaux arrivants. C'est bien beau de les faire venir, mais il faut aussi notamment les franciser.
Mais moi, je suis 100% d'accord. C'est de la musique à mes oreilles. Quand j'écoutais la chronique ce matin, je me disais, mon Dieu, c'est exactement ça. Je l'ai jamais dit avec ces mots-là, mais j'aime beaucoup ça, parler d'un pacte social, parce que c'est pas juste, ça touche pas juste les entreprises privées, comme certains voient comme ça, comme un enjeu patronal. C'est pas le cas. Premièrement, ça touche les services publics aussi, les services essentiels. On en parlait avant la pandémie, on aurait été pendant quelques temps, mais dans les écoles, là, des enseignants, on en manquait beaucoup, puis on était en train de faire appel à un peu n'importe qui pour aller enseigner dans les classes. Mais ça a un impact, des impacts sociaux et économiques majeurs. On l'a vu dans le système de santé. Donc, ça touche tout le monde, ça touche notre croissance économique. Si nos entreprises ils disent non à des projets d'investissement, puis limitent leur croissance, ben oui, c'est un impact pour ces entrepreneurs-là, mais c'est un impact pour tout le monde parce qu'ils payent des impôts, ces gens-là, ils payent des taxes, les employés aussi, puis c'est comme ça qu'on peut financer nos services sociaux. Donc, un pacte social, moi, je trouve ça beau parce que c'est inclusif, puis c'est important pour tout le monde. C'est pour le Québec en entier qu'on parle de ça, de ce sujet-là, puis qu'on se creuse la tête à chercher des solutions. Mais je trouve que ce qui est très dommage, c'est que là, on est en train de polariser tout ça autour des seuils d'immigration.
Oui.
Comme je disais dans mon texte, c'est que vraiment, on parle de choses très semblables. Là. On se déchire nos chemises entre 45 000, 50 000, 55 000, 60 000. On est en rattrapage pour l'année passée. Donc, on va être autour de 55 000 immigrants. De toute façon, le patronat demande 60 000. Le gouvernement va être à 55 000 pour 2 ans. Ça fait aucune différence. On est bien mieux de travailler sur l'intégration. Puis oui, il faut planifier parce que tout est une question de planification là, sur les 5-10 prochaines années. Quelle part des besoins vont être comblés par les immigrants, par les travailleurs temporaires, par les gains d'efficacité, de productivité, d'automatisation, puis par la formation, puis l'intégration des gens, des chômeurs, des personnes de 65 ans et plus, par exemple, qui pourraient rester plus longtemps sur le marché du travail si on les accommodait avec du temps partiel, par exemple, qui pourraient être des excellents mentors. Les jeunes garçons qui ont plus tendance à décrocher. Il faut revoir comment on forme les gens aussi pour rendre ça plus attrayant. Puis les entreprises, ça, c'est mon cheval de bataille préféré, doivent aussi en faire plus. Tu sais, la formation, là, c'est pas vrai que le système va tout faire tout le temps. Il faut que les employeurs puis les entreprises s'impliquent là-dedans. Puis ça, c'est une des solutions qu'on essaie de mettre de l'avant, justement, au lieu d'aller marauder, d'aller voir les petites entreprises, mais qu'est-ce que l'entreprise, elle, peut faire? C'est quoi les solutions? L'automatisation, c'est peut-être, on pense plus au secteur manufacturier souvent, puis notre économie, c'est des services à 80 %. C'est sûr, les restaurateurs peuvent se dire, ben moi, ça me touche pas, là, l'affaire de la formation. Mais oui, quand même, les gens, les jeunes, ils veulent sentir que c'est pas juste. On fait pas juste les payer, mais qu'il y a une culture de travail, qu'on leur donne des responsabilités, qu'on les aide quand même à se former. Ça peut être dans un restaurant, des formations. Il y en a plein, là. Il y a plein d'options possibles par rapport à tout ce qui est mieux connaître l'univers vinicole. Peu importe, il y a des milliers de solutions, mais il faut penser de façon différente.
Oui, puis ce que j'aimais dans ton texte, je vous invite à aller le lire, à le retrouver, vous allez voir, facile, là, un débat qui dérape, c'est ça le titre du texte de Mia Homsy, à qui je parle en ce moment, la PDG de l'Institut du Québec, un débat qui dérape, donc ça a été publié dans la presse. Et donc, dans ce texte-là, Mia, tu dis, dans une ère où, dans le fond, les taux de chômage sont très, très bas au Québec, ils sont appelés à le rester, il va falloir d'une certaine manière, réécrire les programmes, parce que les programmes gouvernementaux, ils étaient très axés sur la création d'emplois. Mais là, le problème, ce n'est plus tellement la création d'emplois, c'est notamment la formation. Fait que tu dis, là, il va falloir changer un petit peu la manière d'envisager l'aide des gouvernements, l'aide des programmes. Les programmes des gouvernements, il va falloir les réaligner.
Mais c'est sûr, il y a 150 000 postes vacants en ce moment au Québec. On est encore en pandémie. On s'en sort, mais on n'est pas tout à fait là encore. Il y a encore des secteurs, là, quand ces chiffres-là sont sortis, qui vivaient des restrictions assez importantes. Là, on va avoir des chiffres qui sortent demain aussi sur les postes vacants. Ça va être vraiment intéressant de voir comment ça évolue. Mais à un moment où on avait, même avant la pandémie, un taux de chômage de 4,5 %, ce qui peut être considéré comme le plein emploi, puis 150 000 postes vacants, annoncer que les fonds publics vont aller à consolider des emplois puis créer des emplois, je trouve ça quand même très déconnecté, alors que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on finance des emplois dans des secteurs puis pour des postes déjà hyper en demande, là, qu'on pense aux technologies de l'information ou autres. Le transport électrique, par exemple, ça, c'est l'autre. Lyon, je suis contente qu'il y ait un débat. Moi, je pense que c'est correct de financer des entreprises qu'on juge qui sont porteuses, structurantes pour le Québec, mais qu'on dise qu'on finance ça pour la création d'emplois, ça, je trouve que c'est complètement dépassé. Puis il y a plein d'autres critères qui pourraient remplacer ça. Je pense que la réticence au ministère du Développement économique à changer les critères, c'est que c'est facile de cocher une case création d'emplois. On écrit le chiffre, on calcule les salaires, puis on calcule les retombées fiscales comme ça, puis c'est facile, c'est confortable, ça fait des décennies qu'on fonctionne comme ça au Québec, que nos politiques de développement économique fonctionnent comme ça. mais ça vaut la peine que quelqu'un prenne ce leadership-là au gouvernement puis dise on va revoir cette liste-là. On a des changements climatiques qui s'en viennent, il y a des inégalités sociales, il y a des gens qui ont sont pas capables de lire un texte de journal parce que ils ont pas eu la chance, le privilège d'avoir une formation adéquate. Il y a plein de critères qui peuvent remplacer ça, puis je pense que celui de la formation puis l'impact social devrait absolument remplacer la création d'emplois.
Très intéressant, Mia Homsy, donc la PDG de l'Institut du Québec. C'est toujours un plaisir, Mia.
Plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir pensé à m'inviter. Bye.
Ça fait plaisir. À la prochaine, on se reparle. On s'en va à la pause. Au retour, notre champion olympique Alexandre Despatie qui va venir nous dire ce que c'est que de se préparer à des Olympiques, honnêtement, hors du commun. Pas évident, hein? Les Jeux de Tokyo là, qui doivent commencer dans quelques semaines, là. Puis on va lui parler de cette jeune nageuse de 14 ans, le Summer McIntosh, là. C'est vraiment tout un phénomène.